Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler cette semaine de la résistance. Les réseaux de résistance à Saint-Antonin-Nobleval, parce que c'est trop peu connu. Et j'ai en face de moi Jean-Louis France-Rise. Bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour.
Qui vient de sortir un bouquin, c'est ce qui nous m'a donné l'idée de vous en parler, intitulé « La lutte armée des francs-tireurs et partisans en Tarn-et-Garonne, 1943-1944 ». Donc la première question que je vais lui poser à Jean-Louis, c'est pourquoi un bouquin sur ce sujet aujourd'hui ?
Alors, ce livre est le résultat de plusieurs années de recherche. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que l'histoire des FTP, c'est-à-dire les francs-tireurs et partisans, est très mal connue en Tarn-et-Garonne. Des ouvrages ont été cependant consacrés à leur histoire, mais de manière incomplète, et on se rendait compte à leur lecture que un certain nombre d'informations étaient mal maîtrisées. Je vais prendre un exemple. Sur le maquis FTP de Saint-Antonin, on savait qu'il y avait des Espagnols qui en faisaient partie, mais d'où venaient-ils ? Pourquoi ? Quand ? Combien ? On ne savait pas. Il y a eu aussi des antifascistes allemands, mais on ne savait pas non plus d'où ils venaient et pourquoi faisaient-ils partie de ce maquis, à tel point même qu'on a un historien de niveau national réputé et reconnu qui a écrit dans un de ses livres que, par exemple, à Saint-Antonin, il y avait 35 Allemands dans le maquis. Ce qui est évidemment faux. Tout cela a fait que j'ai ressenti la nécessité de tout remettre à plat, de faire des recherches pendant plusieurs années dans les archives départementales. Alors Toulouse, Montauban, Musée de la Résistance. Et tout cela a fait que un certain nombre de documents ont permis de mieux comprendre les maquis, leur organisation, leur vie. Et donc, il m'a semblé utile de publier le résultat de ces recherches.
D'accord. Donc, on va y venir sur le résultat de ces recherches précisément. Mais avant d'aller plus loin, tu peux peut-être nous dire un mot sur une initiative qui va se dérouler précisément à Saint-Antonin le 30 août.
Voilà, alors exactement le 30 août à 18h à Saint-Antonin, il y aura une conférence que je vais animer avec Patrice Castel. Patrice Castel est un historien reconnu qui a beaucoup écrit sur le maquis d'Ordano, donc c'est lui la référence par rapport au maquis d'Ordano que tout le monde connaît ici, dans la région je pense. Donc il y a eu Saint-Antonin, le maquis d'Ordano est très connu, c'est le maquis de l'armée secrète. Et avec lui, donc j'animerai cette conférence, moi j'interviendrai pour évoquer le maquis FTP, le maquis des francs-tireurs et partisans de Saint-Antonin.
Alors, justement, première question, l'armée secrète d'un côté, entre guillemets d'un côté, et les FTP également à Saint-Antonin, c'est en fait des réseaux distincts. Et c'est quoi la différence, si on peut le dire comme ça ?
Oui, alors on va faire un petit peu l'histoire, on va remonter un petit peu en arrière. Les formations armées sont issus d'organismes civils. Hein. Bien sûr, les formations armées n'ont pas été créées comme ça. Il faut, à la fin de 1941, début 1942, il y a en France une organisation civile qui s'appelle les MUR, Mouvement Unis de Résistance. Ces Mouvements Unis de Résistance, comme le nom l'indique, ont été créés par le regroupement de trois mouvements de résistance, le mouvement Combat, qui est le plus connu, Libération Sud et Franc-Tireur. Mais Franc-Tireur, ça n'a rien à voir avec les Franc-Tireurs et Partisans, c'est autre chose. Franc-Tireur est inexistant dans la région toulousaine, c'est surtout autour de Tours de Marseille. Donc dans la zone occupée, mais au-delà, vous avez les mouvements unis de résistance qui décident de fonder une branche militaire. Cette branche militaire, ils vont l'appeler l'armée secrète. Le général de Gaulle nomme à la tête des mouvements unis de résistance, dont organisme civil, Jean Moulin. Et à la tête de l'armée secrète, il nomme le général de l'Estrée. Donc, si vous voulez, l'armée secrète, c'est la branche gaulliste de la résistance. mais gaulliste pas au sens que le mot prendra ensuite quand le général de Gaulle créera un parti gaulliste. C'est autre chose. Dans le mouvement gaulliste, il y a beaucoup de sensibilités politiques différentes, des radicaux, des socialistes, des hommes de droite, etc. Bon, ça, c'est la branche gaulliste, l'armée secrète. Et puis, vous avez la branche communiste. Le Parti communiste et les jeunesses communistes décident de créer une branche militaire, et cette branche militaire s'appellera les francs-tireurs et partisans. Donc, en Tarn et Garonne, comme dans la région et au-delà, au niveau de la France, vont coexister ces deux branches militaires. Et en Tarn et Garonne, l'armée secrète possédera plusieurs maquis, dont le plus connu est certainement le maquis d'Ornano, mais d'autres, le maquis de Cabertat, d'autres encore. Mais à Saint-Antonin même, il y a un maquis FTP qui est très peu connu, dont on a perdu l'existence, y compris à Saint-Antonin. À tel point même que, au mois de mars dernier, il y a eu de grandes commémorations pour le maquis d'Ornano. Ça a été très réussi et mérité, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais parmi toutes les allocutions qui ont été prononcées, aucune n'a fait référence à l'existence du maquis FTP de Saint-Antonin. Mieux même, j'ai entendu une élue dire que le maquis d'Ornano avait été le premier maquis, dans l'ordre chronologique, chronologiquement, dans le temps, le premier maquis de Tarn-et-Garonne, ce qui est entièrement faux. Parce que le premier maquis en Tarn-et-Garonne, ça a été le maquis FTP, frontière et partisans français, de Saint-Antonin, qui s'est créé à partir du mois de mai 1943, qui a pleinement été constitué à partir de juillet 1943. Tandis que le maquis d'Ornano n'a été constitué, et sur le même emplacement en plus, sur le plateau de Servanac, quand on monte la côte de Saint-Antonin, qu'on va vers Montricou, ou cette fois, au niveau du cirque de Beaune, là vous avez un espace, et c'est sur cet espace-là qui est devenu ensuite le lieu de parachutage dit volcan, c'est là que le premier maquis FTP a été créé.
D'accord.
Et le maquis d'Ornano n'a été créé que le 23 août 1943.
Alors, puisqu'on est sur les définitions, une particularité locale, mais aussi qu'on va retrouver ailleurs, on parle quelquefois des FTP MOI.
Oui.
Alors, MOI, qu'est-ce que ça veut dire et qui était là-dedans ?
Alors là, tu poses. Voilà. Je crois qu'on va reprendre les choses dans l'ordre chronologique. Donc, je faisais allusion à ce premier maquis FTP français. FETP-F. Donc il est créé à partir de printemps 43. Il est créé essentiellement sur une décision politique, c'est la décision du Parti communiste au niveau régional, qui crée une branche armée en regroupant les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Le commandement de ces trois départements est assuré par un ouvrier de l'entreprise de Voitine, entreprise d'aviation à l'époque à Toulouse, qui a été obligé de fuir, de passer la clandestinité parce qu'il était recherché par la police. André de Lacourtie, 22 ans, c'est lui qui devient le commandant de tous les FTP de ces trois départements. Et il décide, avec Antoine Pellerin d'ailleurs, qui a des liens avec la région de Saint-Antonin, avec la ville de Saint-Antonin, il décide de créer un maquis ici. Donc ça, c'est un maquis français qui va regrouper jusqu'à une trentaine de maquisards, dont notamment des évadés politiques du camp de Boussens dans le Lot-et-Garonne. Il sert d'abord de refuge pour des militants qui sont pourchassés et recherchés par la police. À sa tête, vous avez un ouvrier qui travaillait plutôt dans une scierie de Casteljaloux qui s'appelle Lucien Nollet, qui va devenir le commandant militaire de ce maquis. Ça, c'est un maquis français. Il se trouve que ce maquis, qui d'abord a été implanté, mais a veillé sur ce plateau de Servanac, sur le terrain volcan, dont j'évoquais tout à l'heure l'existence, ce maquis a été rapidement repéré par la gendarmerie de Saint-Antonin, et donc obligé de se déplacer. Il va se cacher ensuite du côté, dans les bois de Tourondol, c'est-à-dire les bois de la forêt du Bretou, la forêt de la Garrigue, sur le plateau de Servanac. Mais là aussi, il est à nouveau repéré, et le 14 août, il fait l'objet d'une battue de gendarmerie. Le lieutenant-colonel qui commande l'escadron du Tarn-et-Garonne organise une battue, le 14 août, avec 50 gendarmes, plus les 5 ou 6 plutôt, gendarmes de Saint-Antonin. Ils ont été prévenus, les maquisards, très très peu avant. Ils arrivent in extremis à se cacher. Et la battue de la gendarmerie est inefficace. D'ailleurs, le lieutenant-colonel dans les archives s'en plaint. Et il se plaint qu'effectivement, ce sont les paysans du coin qui ont donné l'alerte. Il se plaint de la connivence et de la complicité de la population locale. Mais ce maquis est repéré, il n'est plus viable. En plus, il y a les problèmes de ravitaillement, parce que ravitailler 30 jeunes, il faut les nourrir. Tout ça, ça devient quasiment mission impossible. Et donc, le maquis est dissous. Ce maquis est dissous. Les maquisards qui peuvent revenir chez eux sont dispersés, d'autres sont pris en charge par l'organisation communiste, et c'est ainsi que dans Lot-et-Garonne, le noyau central de ce maquis FTPF français va être hébergé dans des structures clandestines dans Lot-et-Garonne, dont Lucien Noulet, il faut parler de Lucien Noulet, de Charles Couchet, étudiant de Montauban, deux ouvriers de Montauban qui s'appelaient... Alfred Negrello et Michel Manzac, l'un d'origine polonaise, l'autre d'origine italienne. Je veux dire un mot sur Alfred Negrello, très rapide, si tu le permets, et Michel Manzac. Ce sont les deux premiers maquisards du Tarn-et-Garonne. Ce sont deux ouvriers de chez Bouillet, l'entreprise Bouillet de Montauban. Ce sont eux qui ont organisé la première riposte contre l'invasion de la zone sud le 11 novembre 1942 par les troupes allemandes. Le 11 novembre 1942... ces deux ouvriers déclenchent une grève à l'usine Bouillet, en commémoration du 11 novembre. Ils sont 11, les ouvriers et ouvrières, à faire grève. Le lendemain, la grève se poursuit, non pas pour commémorer le 11, puisqu'on n'est plus le 11, mais pour commémorer, pour protester contre l'arrivée des troupes allemandes. Ils sont 5. C'est une grève patriotique, elle est très peu connue. Mais c'est eux qui l'ont animée. Et Alfred Negrello et Michel Manzac font mieux que ça. Ils incendient une camionnette allemande de Faubourg Toulousain à Montauban. C'est la première attaque, entre guillemets, c'est pas évidemment considérable, mais c'est quand même le premier acte contre les troupes d'occupation. Donc ces quatre, je disais, Nollet, Couchet, Negrello et Manzac, c'est le noyau central. Et ce noyau central va être rapatrié à Saint-Antonin à partir de décembre 1943 sur décision régionale du Parti communiste. Mais plus dans le cadre de FTPF, dans le cadre de FTP Moy. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, MOI ? MOI, c'est MOI, main-d'œuvre immigrée. Pourquoi ? Parce qu'au niveau régional toulousain, dans l'année 1943, il y a une nouvelle structure de résistance qui se met en place. C'est l'FTP qui regroupe les immigrés. Donc, MOI, ça veut dire main-d'œuvre immigrée. Hein ? MOI, on dit aussi. Et donc, cette structure se met en place d'abord à Toulouse, avec un détachement toulousain, et ensuite essaie d'essaimer au niveau de la région toulousaine. Donc ils vont avoir des formations locales dans le bassin minier, par exemple, de Carmo, avec les Polonais. Ils vont avoir aussi des structures fortes en Lot-et-Garonne, en s'appuyant sur les paysans d'origine italienne. Et puis, ici, en Tarn-et-Garonne, donc, ils décident de créer, toujours parce que Saint-Antoine, sa géographie, se prête un petit peu, effectivement, à l'implantation de maquis avec les forêts avoisinantes. Et donc, ils décident de recréer un maquis, mais dans le cadre de FTP moins, ils n'ont plus dans le cadre des FTP français. Mais, c'est ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que le noyau commandement de ce maquis FTP moins sera toujours le même que le noyau qui a commandé le maquis français, c'est-à-dire Lucien Nollet, le chef militaire, par exemple.
Est-ce que je peux résumer en disant, parce que dans notre actualité aujourd'hui, c'est intéressant de le dire, que c'est quand même les travailleurs d'origine émigrée qui ont défendu finalement, qui étaient particulièrement impliqués dans la résistance pour défendre finalement la France. Est-ce qu'on peut le résumer en quelques mots en disant ça, puisque c'est quand même remarquable par rapport au discours nauséabond qu'on entend dans la période.
Bien sûr, et encore, je vais te donner deux autres exemples quand même. C'est que, alors donc, on est dans le cadre des FTP Moy. Ce que l'on ne savait pas, en fait, et ça, c'est la découverte issue des archives que j'ai pu consulter. On pensait que c'était le premier maquis originel, le maquis FTPF, et qui avait continué sa vie. En fait, non, il a été dissous. Et c'est une structure nouvelle qui a été créée. Et dans cette structure nouvelle, le commandement de la 35e brigade Marcel Langer de Toulouse, qui est la brigade de FTP Moy, envoie, comme cela, vers le maquis de Saint-Antonin, envoie des militants recherchés, la plupart étant d'origine immigrée. Mais on va avoir deux groupes qui vont rejoindre ce nouveau maquis. On va avoir un groupe espagnol. les guérilleros espagnols ont eu une implantation à Casal, à côté de Saint-Antonin, sous couvert d'un maquis, sous couvert d'une organisation forestière, d'un chantier forestier. Ils coupent du bois, ils font du charbon de bois, mais en fait, ce sont des guérilleros qui se camouflent de cette façon. Et au début, fin hiver 43, il est décidé au niveau régional, toute la région toulousaine, que les guérilleros vont intégrer la structure FTP Moy. Donc ils vont l'intégrer en Ariège, par exemple, massivement. Mais ici, en Tarn-et-Garonne, on aura donc un groupe de guérilleros espagnols venant notamment de Casal, mais aussi venant de manière individuelle des maquis du Lot, parce que dans le Lot, vous avez deux maquis entièrement espagnols qui se sont constitués à la frontière avec le Tarn-et-Garonne. Donc on a une arrivée, et au total, on aura une vingtaine de guérilleros espagnols qui viennent se greffer sur le maquis FTP Moy.
Alors avant d'en arriver au ce que j'ai appelé l'effet d'armes, enfin l'effet concret, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout à l'heure, tu as parlé d'antifascistes allemands. Est-ce qu'ils sont encore dans le secteur ? Est-ce qu'ils sont seulement en état de vie ? Parce que évidemment, s'ils sont fait prendre avant, malheureusement, ils sont plus là. Ces antifascistes allemands, est-ce qu'ils sont intégrés dans les FTP Moy ? Ou est-ce qu'on malheureusement ils ont disparu ?
Alors voilà le bon. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que une des raisons qui ont fait que la 35e brigade Marcel Langer de Toulouse a décidé l'implantation d'un maquis FTP Moy à Saint-Antonin, c'est non seulement la situation géographique, non seulement le fait qu'il pouvait s'appuyer sur un noyau de militants existants, Lucien Nollet, Couchet, Negrello, Mazac, etc., mais aussi le fait qu'il y avait ce groupe espagnol de guerrilleros qui pouvait servir de point d'appui et il y a le camp de Sept-Fonds. Dans le camp de Sept-Fonds, il y a encore, en 1943, dans une partie du camp, il vous avait des prisonniers politiques allemands. La plupart sont des militants communistes, plus âgés que d'ailleurs que les maquisards, qui ont en général un âge aux alentours d'une vingtaine d'années, et qui sont des militants en général communistes éprouvés, qui sont passés par l'Espagne et des brigades internationales. Ils sont, pour l'instant, prisonniers au camp de cette fois. Or, ils vont s'évader avec la complicité des organisations communistes. Ils vont s'évader courant février 1943. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que j'ai retrouvé parmi les documents, mais ça c'est à Toulouse, dans les archives départementales de la Haute-Garonne, on retrouve un compte-rendu d'enquête d'un inspecteur de police qui se rend au camp de Sept-Fonds pour comprendre et faire la lumière sur l'évasion de ces huit militants antifascistes allemands. Et donc, on a les noms. On a les noms, la date de naissance, la ville de naissance, l'origine, etc. Et même la religion, puisqu'à l'époque, ça compte. Et donc, ces antifascistes allemands rejoignent eux aussi le maquis FTP. Déjà, il y en avait deux autres dont on a les noms aussi. En tout, il y aura 12 Allemands. Hein? Donc, le maquis FTP Moy, à ce moment-là, prend véritablement sa dimension ultime, on va dire. Hein? Et va cesser d'exister en tant que tel début juillet, aux environs du 10 juillet 1943. Alors, pourquoi ? Nouveau changement de structure. C'est que les guérilleros espagnols décident de sortir du maquis. D'une décision politique pour tout le monde, pour tous les guérilleros sur l'ensemble du pays. Pourquoi ? Parce que les guérilleros espagnols, évidemment, ils préparent le retour en Espagne. Ils s'organisent entre eux, ils préparent une force armée pour pénétrer en Espagne. Ce sera l'expédition du Val d'Aran qui tournera court. Donc pour ça, il faut qu'ils sortent des maquis, qu'ils se regroupent entre eux. Et donc à partir de là, le maquis FTP Moy cesse d'exister comme il était. Les Français se regroupent entre eux et redeviennent un maquis FTP-F qui porte le nom de Louis Sabatier. Mais le nom de Louis Sabatier, qui a été étudié à Montabané, fusillé le 17 février 1944, avait déjà été donné au maquis FTP-Moy en fin février 1944. Mais donc, le maquis FTP-F qui se reconstitue garde le nom de Louis Sabatier. Et à côté, vous allez avoir un détachement uniquement composé d'immigrés. Alors ce détachement, il est composé de 20 hommes à peu près. Sur ces 20 hommes, vous avez 12 Allemands, dans les 8 du camp cette fois, les deux qui étaient déjà là, dans les noms, ça fait 10, dont on connaît les noms, puis deux autres plus ou moins inconnus. Vous avez un Russe, vous avez 3 Italiens ou d'origine italienne, vous avez 4 Polonais. Donc, ce détachement FTP-MOP prend le nom d'ailleurs de détachement Broussens. Donc, à partir de juillet, les guérilleros se retirent et quittent d'ailleurs les bois de Tourandol où le maquis s'était à nouveau formé. Et les guérilleros se déplacent vers Montricou. Tandis que le maquis FTP-F, toujours commandé par, alors qui n'est plus commandé par Lucien Nollet maintenant à cette époque-là, puisque Lucien Nollet devient le commandant militaire de tous les FTP-F du Tarn-et-Garonne. Puisque dans le Tarn-et-Garonne, vous avez deux autres maquis FTP-F, le maquis de Verdun sur Garonne et le maquis de Lozerte. Et ce maquis FTP-F se déplace donc vers le hameau de Vidal, qui est entre Caylus et Saint-Antonin, hein, le long de... de la rivière, là, dans la Bonnette, sur la droite, montant un petit peu. Et le maquis FTP-Moy, la formation FTP-Moy, reste avec lui. Donc là, c'est nouveau, pourquoi ? Parce que le commandant militaire, ce n'est plus Lucien Nollet, comme je l'ai dit, c'est Georges Estival. Georges Estival, c'est un ouvrier, artisan, plombier Zinger, pas encore artisan, hein, plombier Zinger, et qui habite Saint-Antonin à ce moment-là, qui est né tout près d'ici à Caylus, mais dans le Lot, dans le département du Lot, qui est un militant communiste recherché, qui a été emprisonné, qui a fait 3 ans de prison, qui a été relâché, qui a été en résidence surveillée à Cajar, mais évidemment il quitte Cajar, et il est envoyé directement au maquis FTP-F pour en prendre la direction militaire. Et donc, à partir de là, le maquis FTPF et le maquis Broussens, leur formation Broussens, FTP Moy, vont ensuite, à partir de Vidal, se déplacer et vont aller sur le plateau de Vest, du côté de Bel Air. Ça sera leur dernier cantonnement jusqu'au 19 août. Alors, tu me disais quelles actions ?
Alors, il y en a oui, plus. C'était ma question, ma dernière grande question. C'est concrètement ces maquis, ces organisations, qu'est-ce qu'elles ont fait sur le terrain, puisque c'est là qu'on va mesurer en fait à la fois l'efficacité, la puissance d'action qui est aussi liée aux moyens matériels, pas seulement nombre d'hommes, mais pour mener des actions d'envergure, et encore faut-il avoir le matériel correspondant. Donc c'est voilà, tous ces aspects-là.
Voilà, et de ce point de vue-là, les maquis FTP général, qu'ils soient français ou moy, ont subi le fait de n'avoir que très très peu d'armes. Puisque parmi tous les parachutages en Tarn-et-Garonne, il y a eu 32 parachutages quand même, aucun n'a été fait pour les FTP.
Évidemment, alors, c'est un point que je voulais, sur lequel je voulais appuyer, puisque on voit qu'il y avait des mouvements de résistance. On a vu les FTP et l'armée secrète, mais il n'y avait pas de parachutage pour les FTP. C'était réservé au mouvement gaulliste. Est-ce que je peux le résumer comme ça ?
Alors, en Tarn-et-Garonne, oui, c'est un constat. Les 32 parachutages ont été faits à destination des maquis de l'AS et des formations de l'ORA-CFP. Alors l'ORA-CFP, c'est une autre formation armée, c'est l'organisation de résistance de l'armée qu'offrant Pomies. Pomies étant celui, l'officier de l'armée, qui a commandé, réorganisé ces groupes de résistance menés par des officiers de l'armée dans le sud-ouest. Donc eux aussi ont bénéficié d'un nombre important de parachutages, mais pas l'FTP, aucun. Donc ce qui fait que le maquis de Saint-Antonin est très peu armé. Par exemple, ils n'ont aucun fusil mitrailleur. Or, on sait que l'arme de la guérilla, c'est le fusil mitrailleur. Les mitraillettes Sten, de fabrication anglaise, mauvaise qualité d'ailleurs, par rapport aux mitraillettes Thompson américaines, les mitraillettes Sten ne sont efficaces qu'à moins de 30 mètres. donc, pour mener les actions de guérilla contre les colonnes allemandes qui viendraient à passer à proximité, c'est quasiment impossible. Pourtant, ils l'ont tenté. Alors, quelles sont les actions? Deux types d'actions. D'abord, les sabotages. Le maquis FTP, qu'il soit français ou moy, a en charge, c'est sa responsabilité, de tenir la ligne à haute tension qui part de la centrale de Verlaguer à Montauban et qui se dirige vers le nord, vers Saint-Projet, vers Loze, qui se dirige vers Viviès, donc qui passe par Saint-Étienne de Tulmont, tout ça en Hérépolis. Il faut la tenir coupée. C'est une ligne à haute tension. Il faut la tenir coupée parce qu'elle alimente aussi des industries de Viviès qui servent aussi pour l'armée allemande, pour les troupes d'occupation. Donc sur cette ligne à haute tension, c'est Charles Couchet qui en est le responsable. Et je faisais le décompte des sabotages sur cette ligne à haute tension. Il y en a eu 8. 8 sabotages de pylônes mis à terre sur cette ligne à haute tension. Il y a aussi les opérations sur les voies ferrées. Alors, c'est les voies ferrées. Il y a la petite voie ferrée qui n'existe plus maintenant, qui partait de Montauban et qui allait vers Naxos en passant par Saint-Étienne, Négrepelisse et Saint-Antonin. Elle a été transformée en route. C'est la route depuis 1951 ou 56, je ne sais plus. Et donc, elle n'était pas très utile, pas très utilisée. Elle n'était utilisée que deux jours par semaine. Mais enfin, il fallait la tenir coupée. Là-dessus, ils ont fait aussi un certain nombre de sabotage de cette voie ferrée, 8. 8, pas simplement sur cette petite voie ferrée, mais aussi sur la voie ferrée beaucoup plus utilisée, celle-ci, qui est la voie ferrée Toulouse-Montauban-Paris par Caussade, qui va vers Cahors. Et là, il y a eu aussi de grands sabotages faits par la FTP, et nombreux ont été aussi les sabotages faits par les maquis AS. Donc ça, c'est le sabotage. Après, il y a des coups de main. Alors, pour se procurer du matériel, à défaut d'armes, il faut avoir des explosifs. Pour sabotage. Comment trouver les explosifs? Ben, les explosifs, ils vont les trouver tout simplement dans la carrière tout proche, puisqu'à Lexos, il y a une usine de chaux et ciment. Donc, ils utilisent des explosifs qui sont gardés, stockés dans un bunker spécial. Bon, ils vont attaquer deux fois cette carrière et s'emparer chaque fois d'une quantité importante d'explosifs. Là, on parle de 300 kilos et de 400 kilos pour la dernière fois, quand même. Qui sont ensuite ventilés, ils ne gardent pas, évidemment, pour eux. Ces explosifs sont ventilés ensuite dans les maquis FTP de la région. Il y en a qui sont partis, par exemple, dans le Tarn. Ça, c'est une chose. Après, il y a eu aussi des coups de main, dont peut-être un des plus mal connus est celui qui a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 juillet 1944. C'est la libération de 42 détenus politiques de la prison de Gaillac. Il se trouve que Gaillac, c'est dans le Tarn. Et le maquis FTP, à l'époque c'était le maquis FTP moi, il y a encore, s'est beaucoup déplacé. Et à cette époque-là, il était à Millars, c'est-à-dire dans le Tarn, mais pas loin d'ici, mais dans le Tarn. Et ce maquis FTP a été sollicité par le commandement des FTP du Tarn pour donner un coup de main pour opérer la délivrance des détenus de la prison de Gaillac. Cette opération, qui est assez complexe, a été faite en collaboration avec l'armée secrète de la Grésigne, de la région de Gaillac, commandée par Van de Ven, qui lui a mis à sa disposition des hommes et des explosifs aussi. Il y a eu une répartition des tâches. L'AS s'est chargé de neutraliser la gendarmerie toute proche, quasiment contiguë à la prison. Neutraliser, c'est un bien grand mot, parce que, en fait, les gendarmes ont été tacitement complices, en réalité. Et la partie la plus délicate, c'est-à-dire forcer l'entrée de la prison, a été dévolue au FTP. Donc le commandant FTP du Tarn et un groupe d'une vingtaine de FTP moy du maquis de Saint-Antonin, commandé par Estival, ont forcé la porte de la prison de Gaillac en utilisant des menaces, en disant aux gardiens à travers la porte, ouvrez, sinon on fait sauter la porte, et si vous n'ouvrez pas, on fait sauter la porte et on vous fusille. Donc ils ont ouvert, donc 42 prisonniers ont été libérés ce jour-là. Je veux dire une chose, si vous allez sur le site internet de la mairie de Gaillac, c'est une histoire que vous n'entendrez pas. Le site internet de la mairie de Gaillac, c'est uniquement le fait d'armes de l'AS. On ne connaît pas du tout le FTP. Et malheureusement, d'ailleurs, un bouquin a été écrit là-dessus. qui lui aussi n'a absolument pas compris qui étaient véritablement les acteurs de la prison de Gaillac. Bon, alors je donne simplement deux autres faits d'armes. Le 18 août, attaque de la prison de la gare de la Ville-Dieu. Ils font prisonnier 21 Allemands, une tonne et demie de matériel. Mais quand ils reviennent à Réalville pour rejoindre leur cantonnement, ils entrent en contact avec une colonne allemande. Ils auront deux morts. Bon, et puis après, il y a le 20 août aussi, où ils attaquent la colonne germano-allemande qui arrive de Caussade, qui a essayé d'entrer dans Montauban, qui n'y est pas arrivé. Et à La Salvetta, ils essaient de la harceler. Sans fusil mitrailleur, c'est évidemment très dangereux. Ils ont un mort là aussi.
Donc on a des faits d'armes conséquents, considérables, hein, à ce que tu as appelé à la fois les coups de main pour libérer des prisonniers, ou en faire, parce qu'on a vu aussi le fait que les Allemands avaient été prisonniers, et différentes formes de sabotage. Donc là, on va arriver sur la fin de l'interview. Donc je rappelle le 30 août une conférence débat sur le sujet à 18h à Saint-Antonin, et le bouquin que tu as écrit avec à la fois des rectifications et nombre de précisions, La lutte armée des frontières et partisans en Tarn-et-Garonne. Et là on a parlé plus précisément de la région de Saint-Antonin lors de cette interview. Un petit mot de la fin avant de se quitter.
Oui, moi, ce qui est important, à mon avis, c'est qu'enfin, on puisse rendre justice à tous les maquisards, à tous les résistants. Et qu'on arrête un petit peu de mettre de côté une certaine forme de résistance, parce qu'elle ne plaît pas. Je trouve très dommage qu'à Saint-Antonin en particulier, on ne connaisse pas assez le maquis de Saint-Antonin. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que cette conférence ait lieu à Saint-Antonin, et qu'elle se fasse sous une forme originale. C'est-à-dire que Patrice Castel abordera le maquis de Ronanneau, moi j'aborderai les maquis FTP, de telle manière que je crois qu'on puisse se rendre compte que ces maquis, loin d'être opposés d'ailleurs, parce que parfois ils se sont connus, hein, ils ont eu des contacts entre eux, parfois même ils se sont entraidés entre eux. Donc je crois qu'il faut que l'action, le sacrifice de ces résistants mérite quand même d'être connu.
Eh bien, merci Jean-Louis. Avant de se quitter, une initiative qui va être proche, puisque c'est le jeudi 18 juillet au café associatif Le Boui-Boui du Pays, entre Lexos et Fenroll, une conférence débat sur la Palestine, et en particulier le titre est « La Palestine face au génocide, agir pour la paix et la reconnaissance des droits des peuples ». Avec plusieurs intervenants qui viennent, pour certains d'entre eux, précisément de Palestine. Donc, vous y êtes invité à cette conférence débat ce jeudi 18 juillet à 17h30 entre Lexos et Fenroll. C'était ma petite page de pub qui mérite bien d'être connue dans cette période, puisqu'il y a quand même un fil conducteur dans tout ça, ce sont les résistances, que ce soit en 39-45, que ce soit en Palestine aujourd'hui, que ce soit dans notre actualité politique directe, par rapport notamment au fascisme et à l'extrême droite. Voilà ce que je voulais vous dire et à bientôt. Merci Jean-Louis.
Oui, merci à vous.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.